disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passé de quelques minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. L'équipe du jeudi arrive de manière un peu apocalyptique. D'abord, on commence presque à la bourre et Delphine n'est pas encore arrivée. Elle a fait un aller-retour, elle arrive avec ses petits papiers. Donc, elle devrait arriver d'ici 5 minutes. Donc, c'est moi qui vais ouvrir ce Canu Info avec quelques petites infos sur l'Iran. Je vous fais pas le tour de ce dont on va parler, puisque c'est Delphine qui a le conducteur, comme on dit dans le langage technique, de ceux qui essayent de faire des journaux d'information à la radio. Même à Radio Canyon, on a un conducteur. Et donc, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, on va parler de l'Iran pour ce début d'émission. Alors, on sait très bien qu'en ce moment, l'Iran est très très critiqué pour la répression sanglante des manifestations. Bon, il y a une critique locale, on dira, enfin, en tout cas de la population. Ça sort pas de la population, bien évidemment. Et une critique sur la scène internationale. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on notera que il y a un certain clivage entre la France et les États-Unis. Même si tout la France, les États-Unis, les autres pays d'Europe et plein d'autres pays ont condamné les violences, ce qui fait toujours rire d'ailleurs, les violences et la répression de l'État iranien, hein, ça fait rire parce que finalement le gouvernement français est pas si loin que ça, même si on a quand même pas de morts en France dans la répression, mais la répression est quand même pas non plus négligeable chez nous. Mais en fait, au milieu de tout ça, il y a aussi l'accord sur le nucléaire. Là, il y a une vraie divergence pour l'instant avec les États-Unis d'Amérique, hein, qui ont rejeté cet accord. Et malheureusement, c'est en train de changer, puisqu'on a eu le ministre des Affaires étrangères français, hein, Jean-Yves Le Drian, qui a dit que tous les efforts de désescalade du président français, son ami Macron, avaient échoué, donc envers et avec l'Iran. Et du coup, il s'interroge sur la mise en œuvre de mécanismes de règlement des différends qui est prévu dans le traité. C'est ce qu'il a déclaré. Alors, ce fameux mécanisme de règlement des différends, c'est en fait passer par différentes étapes pour arriver à un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies et arriver à des sanctions, exactement ce que fait le gouvernement Trump depuis son arrivée quasiment à la Maison Blanche. Donc voilà, donc petit à petit, la France, Macron, Jean-Yves Le Drian, qui est le représentant de Macron et censé de nous tous et toutes, eh ben ils sont en train de s'aligner sur les positions des États-Unis et notamment de Donald Trump. Alors sur l'Iran, on en est où? Alors il est quasi impossible, hein, de trouver le moins d'articles de presse. De la presse iranienne qui parle des manifestations. Il y a une espèce de grosse censure. Il y a peu de choses qui sortent non plus maintenant, même si ça commence à revenir petit à petit. On a un enseignant là en sciences politiques de l'université Azad de Téhéran, Mohamed Mohebi, qui s'est pas mal exprimé, notamment dans Iran Wire. Iran Wire, c'est un site iranien de l'opposition qui est installé à Londres. Il y a beaucoup d'informations, hein, sur ce site. Notamment, ils arrivent à récupérer quand même des témoignages d'Iraniens qui racontent ce qu'ils vivent, qui postent des vidéos. Enfin, qu'ils faisaient à un moment, parce que maintenant, c'est devenu compliqué. Pour cet universitaire qui fait une analyse d'universitaire, on va dire, de la situation, il explique quand même le fond du problème. Notamment, il l'explique en disant que c'est majoritairement la classe moyenne qui est dans les rues. Moi, je veux bien le croire, hein, puisque j'y suis pas allé. Mais il y a aussi, je pense, des personnes plus pauvres. Mais il y a donc effectivement la classe moyenne qui est dans les rues. Cette classe moyenne qui a pris en pleine gueule les mesures que le gouvernement a pris. On rappelle que ces mesures, en fait, c'est suite aux sanctions américaines. Le pays est en manque d'argent. Et donc, il y avait plusieurs choix possibles budgétaires. Arrêter de détourner l'argent des impôts du pays pour son propre intérêt. Ça, ils l'ont pas fait, hein, comme tous les hommes politiques, les hommes et femmes politiques. Non, ils ont décidé de taxer les habitants de l'Iran, le peuple iranien, et c'est ça qui a mis tout le monde dans les rues. Donc on en est là, la répression est forte, hein, il y a au moins une centaine de morts, enfin, vous avez entendu toutes et tous ce qui s'était passé. Et on va parler de quelque chose dont on a moins parlé, qui explique un petit peu l'état actuel de la censure en Iran et pourquoi cette censure est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Donc on l'a vu, hein, à partir du 15 novembre, Téhéran, avec sa hausse du prix de l'essence, a mis des milliers, voire plus de personnes, des centaines de milliers, peut-être des millions, d'Iraniens dans les rues. L'agitation est devenue tellement forte que le régime totalitaire iranien, les mollahs, ont décidé d'isoler tout le pays, notamment sur Internet. Résultat, les Iraniens ont aujourd'hui beaucoup plus de mal à communiquer avec l'extérieur et l'extérieur a du mal à communiquer avec les Iraniens. Même si depuis quelques heures, depuis quelques jours, la situation semble s'améliorer. Alors, dans les faits, hein, toutes les applis de communication internationales qu'ils utilisent, comme tout un chacun et comme beaucoup de gens dans le monde, WhatsApp, Telegram, j'en passe et des meilleures ou des moins bonnes, même les mails n'ont pas été transmis, ne pouvaient plus sortir d'Iran, les mails extérieurs ne pouvaient pas rentrer en Iran, les images ne pouvaient pas sortir. Il y a eu quelques tweets qui sont sortis en persan, mais des tweets qui venaient en fait pas du tout de la population mais de faux comptes, de robots, de boots, de bots comme on dit, voilà, issus de l'état iranien, puisque le seul, finalement il y a que les dirigeants qui avaient accès à internet, notamment leur guide pseudo suprême là, Ali Khamenei. Donc la solution qui nous questionne, c'est et on se rappelle, hein, quand il y a eu notamment d'autres manifestations et en Iran, il y a des collectifs de militants internationaux qui permettent, qui réouvrent les accès à Internet. Et c'est pas arrivé là. Et on se dit, bah tiens, pourquoi cette fois-ci, tous ces militants, ces hackers, ils sont pas arrivés à rouvrir Internet? Et ben on va vous donner une explication. Elle est assez surprenante au départ. Donc, alors il faut que je replace les choses dans leur contexte. Ça vient, toute la problématique actuelle du fait qu'on n'arrive pas à aider les Iraniens à parler et à s'exprimer en dehors de leur pays, c'est une des conséquences des sanctions, notamment américaines, liées au problème du nucléaire. Je vous explique maintenant pourquoi. Alors d'abord, ils n'ont plus accès au système financier international, l'État iranien. Donc ils n'ont plus accès aux plateformes d'e-commerce, ils n'ont plus accès au cloud international, qu'on connaît, les drives sur Google, sur machin, enfin toutes ces choses-là qui permettent de mettre des choses en dehors du pays, des vidéos, du son, des textes. Ça a tout disparu. Ça a été un petit peu la première étape, mais c'est pas la plus grave. La plus grave, ça a été la réaction des autorités iraniennes quand les sanctions ont commencé à arriver et que ils se sont dit oulala, ça chauffe pour nous. Ils ont décidé de créer leur propre réseau internet national. Ils portent le nom de National Information Network, NIN, on va dire, on l'appelait NIN. Hein. On va prendre cet acronyme là. C'est aujourd'hui la porte d'entrée par laquelle les Iraniens rentrent sur Internet et donc sur le réseau planétaire. En 2009, on se rappelle, Ahmadinejad est élu, des grosses manifestations, le gouvernement essaye de limiter les gens dans la rue, dans leurs témoignages, ils vont essayer de ralentir Internet, mais ils n'arrivent jamais à le bloquer. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que comme tout l'Internet passe par ce réseau NIN, eh ben, en quelques secondes, ils coupent le réseau et plus personne, plus aucun Iranien ne peut accéder à l'Internet mondial. Ça, c'est lié au fait que les sanctions ont obligé, quelque part, l'Iran à avoir son propre réseau puisqu'ils n'avaient plus accès à la technologie extérieure et notamment enfin tout ce qui est lié au numérique moderne. Donc, ils ont créé ce propre réseau grâce aux Américains, du coup, grâce aux sanctions américaines. Et aujourd'hui, ce sont les démocrates, notamment les militants, les militantes iraniens, iraniennes qui sont dans les rues, qui se trouvent coincés suite à, du coup, de manière indirecte, de ces sanctions américaines et bientôt pour européennes, hein, parce que c'est ce que j'ai dit au début. On semble parti pour suivre la route des États-Unis d'Amérique. Voilà, on en est là. Alors, on se rappelle aussi comment ça s'est passé au début de l'arrivée de Hassan Rouhani quand il a été élu. Le pays était assez en retard sur pas mal de choses, sur le réseau Internet notamment, et sur les réseaux 3G, 4G. Donc, ils ont ils ont aidé, en gros, ils ont donné des licences à des entreprises iraniennes. L'Internet s'est développé, plus rapide, plus fiable, mais un Internet qui passe donc par ce fameux nœud qu'on appellera donc le NIN. Et aujourd'hui, ben voilà, l'ensemble du réseau Internet est contrôlé par les mollahs, le régime totalitaire qu'on a en place. Ce qui explique donc pourquoi, au bout d'un moment, on n'a plus accès, on n'a plus aucun témoignage. Ça a été beaucoup plus compliqué d'avoir des infos, même sur Iran Wire, là, le fameux site anglais, dans lequel il y a beaucoup d'opposants qui parlent. Alors, autre chose, pour terminer sur l'Iran, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, et qui nous vient notamment de la télévision ou de la radio publique iranienne, c'est les témoignages en direct d'opposants qui font une sorte de mea culpa ou qui expliquent ce qu'ils ont fait. Alors bien évidemment, tout ça est du montage, ils obligent les gens à parler, ça s'est déjà passé plusieurs fois par le passé. La nouveauté, c'est qu'ils ont décidé, l'État iranien, donc les mollahs, de faire porter la responsabilité du mouvement aux femmes. Donc c'est assez nouveau. Et ça a commencé il y a quelques jours, notamment le 20 novembre. La télévision publique iranienne a diffusé les aveux d'une femme qui, selon le présentateur, s'appelait, alors ils ont donné son nom, hein, Fatemeh Davan, je prononce sûrement très mal, qui avait été arrêtée donc lors des manifestations. Ils l'ont fait parler, alors elle a prononcé juste une simple phrase, parce qu'elle a pas, je pense qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient qu'elle dise, qu'elle fasse son mea culpa, qu'elle était responsable de tout ça. Mais elle a quand même fait ce témoignage, cet aveu, bon, vraisemblablement, bien évidemment, sous la contrainte. Et ils ont expliqué après sur son cas, voilà, elle habite, elle a tenté de passer en Irak, c'est là qu'ils l'ont arrêtée parce que, en fait, son village est juste à côté de la frontière irakienne. Elle est copine avec des groupes contre-révolutionnaires. Enfin, voilà, toutes ces choses-là que peuvent inventer un État totalitaire. D'autres journalistes ont fait remarquer que c'était pas du tout, que tout ce qui était balancé par les médias pro-gouvernement était totalement faux. Cette femme avait bien été une manifestante arrêtée simplement en train de manifester. Et donc, ce qui s'est passé, alors ça s'est passé pour cette dame, ça s'est passé pour plein d'autres. Les mollahs ont officiellement, et notamment c'est le cas de l'agence de presse de la République islamique d'Iran, qui s'appelle IRNA, qui a publié carrément un rapport qui affirme notamment que cette femme, mais que d'autres femmes, étaient à l'origine des troubles et étaient responsables des troubles qui ont lieu dans ce pays. Et alors, on comprend pourquoi. Le mouvement des femmes en Iran a pris de l'ampleur. Elles se sont rebellées contre le port du voile, contre l'interdiction d'aller assister aux matchs de foot, sous plein de formes. Hein. Ça peut être simplement anodin, se balader en vélo alors que c'est pas autorisé, se dévoiler, aller aux matchs de foot déguisé en homme. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Et les mollahs sont coincés. Ils ont du mal à lutter contre ces femmes comme ça. Et donc, eh ben voilà. Cette rébellion, cette révolution, on appelle ça comme on veut, Eh ben c'est ils s'en servent du coup comme prétexte pour dire regardez, c'est la faute aux femmes, c'est les femmes qui manipulent le peuple, c'est les femmes qui sont responsables de tout ça. C'est voilà, c'était juste pour signaler ce petit truc un peu nouveau dans cette dictature religieuse, cette théocratie, hein, parce que c'est une des théocraties que nous avons sur la belle planète Terre avec leurs copains ou leurs ennemis, l'Arabie Saoudite et d'autres. Donc voilà, c'était juste pour dire que voilà, on instrumentalise aussi la lutte des femmes pour leurs droits en Iran contre elles. On se sert de n'importe quoi pour lutter contre les pauvres femmes qui essayent d'obtenir quelques droits. Et là, pour, du coup, aussi pour le peuple qui essaye de vivre un peu mieux. Voilà, j'ai fait que l'Iran depuis que t'es arrivé. J'ai pas fait l'ordre du canut info parce que je t'attendais. Donc Delphine est rentrée dans le studio en courant avec ses papiers à la main. Ah oui, alors, il faut que je te mette un micro. Oui, voilà.
Ouais, bonsoir à tous et à toutes. Oui, ben, question, il y a des fois, la vie, c'est difficile, hein, et on fait des bêtises, on oublie ses petits papiers. Hein. Donc, on court. Je vais parler très, très rapidement des élections municipales qui approchent. Juste quand même pour espérer que vous avez tous et toutes bien regardé cette vidéo absolument magnifique avec des cow-boys dedans. Vidéo qu'on retrouve, par exemple, filmée par France 3. Je crois que là, nous incite vraiment à pas aller voter. Hein? En tout cas, bon.
Tu veux dire, là on voit ce monsieur qui a les cheveux blancs un peu frisouillés qui
Roland Bernard.
Ouais, je ne savais pas son nom, qui insulte un autre
Thomas
Rodrigueuse, de ses anciens copains.
Oui, vous savez, c'est la bataille entre les pros Gérard Collomb hein, et puis les pros David Kimmelfeld, puisque je vous rappelle que dans cette bataille pour les élections municipales de 2020, un certain nombre d'amis, de collègues, de complices de Gérard Collomb se sont barrés pour aller rejoindre David Kimmelfeld donc pour la bataille de la métropole ou aussi pour après aller pour certains et certaines sur la lutte pour la bataille pour la mairie de Lyon. Donc ça a évidemment créé des tensions a priori. Alors moi je me suis demandé si dans l'hôtel de ville, hein, vous savez si vous n'êtes pas de Lyon, on a un vieil hôtel de ville et qui fait un U. Et donc dedans il y a des coursives, vous savez. Donc je me demande si jamais les gens font tout pour pas se croiser, parce que vous pouvez passer d'une porte à une autre, éviter de croiser celui du deuxième, tout ça, puisque l'adjoint à la culture de Collomb s'est quand même barré du côté de David Kimmelfeld, qui rappelons-le n'a pas eu les honneurs et les joies d'être soutenu par Monsieur Macron et par La République en Marche.
Ben non, ils soutiennent qu'un candidat et puis il a soutenu son copain du début, Monsieur Macron.
Donc voilà, c'est une vidéo quand même qui est assez rigolote, parce qu'on voit quand même deux bonhommes finir un peu poitrail contre poitrail. On a envie de leur dire, sur la gueule, mettez-vous.
Ouais, on a presque envie qu'ils se tapent dessus, tellement bon, qu'ils sont ridicules.
Non. Alors l'autre, quand même, lui dit, t'es un minable, t'as jamais rien fait de ta vie, t'es un traître.
Ouais,
voilà, donc on en est quand même là. Moi, je trouve qu'on s'éclate un peu. À Paris, pareil, ils s'éclatent pareil. Hein. Bon, c'est pas chez nous.
Du coup, ça rappelle que ces gens-là qui sont élus ne sont pas élus pour servir le peuple, pour faire des choses bien. Non, ils sont élus juste pour gagner un bout de pouvoir. Et quand ça leur échappe, et ben, ils deviennent méchants entre eux. Voilà, c'est tout.
Mais ce qui est intéressant sur cette vidéo aussi, c'est que les gens qui sont autour, alors quand même, c'est filmé. Hein, et puis c'est France 3 qui est là. Tout le monde baisse la tête en fait, c'est-à-dire laisse finalement Roland Bernard s'en prendre assez violemment, verbalement à un de ses anciens amis. Et puis donc il y a eu des réactions, hein, puisqu'il y a eu un communiqué qui a été publié par le groupe progressiste et républicain, déjà c'est tout un poème, qui demande est-ce qu'il y a une condamnation des tels comportements avec une intimidation et que tout ça est indigne. Et puis il y a une demande à ce que Gérard Collomb s'explique sur la question, c'est-à-dire finalement condamne hein, lui aussi, bon pour l'instant Gérard, il reste muet. Bon, il faut dire qu'on a appris lundi que possiblement, potentiellement, peut-être bien que, il pourrait être à la fois et sur la ville de Lyon et sur la métropole. Parce que un seul pouvoir ne suffisant pas.
Voilà, c'est ça, il faut en avoir le plus possible.
Voilà, alors on ne sait pas si c'est parce qu'il veut les deux ou s'il
enfin, dit... Il faut choisir, hein. S'ils sont élus, ils choisissent.
Non mais l'idée c'est quand même que, là ça fait quand même représentant de commerce. Parce que l'idée c'est que comme personne ne connaît aujourd'hui les candidats, les candidates qui sont à la mairie, enfin qui sont là pour la mairie de Lyon. Il faut quand même le dire, à moins que vous intéressiez vraiment à la vraie politique lyonnaise. Personne ne connaît vraiment ces gens. La plupart du temps, les gens ne savent pas à quoi ils ressemblent.
À part Collomb et Kimmelfeld quand même.
Oui, non, mais je parle pour, vraiment oui. pour la mairie de Lyon, pas tant pour la métropole, parce que pour la métropole, finalement, on a un peu l'impression que même les écolos qui sont pas trop mal placés dans les sondages, je pense que les gens, tu les croises dans la rue, ils savent pas qui c'est. Hein. Mais pour la mairie de Lyon, vraiment pour cette mairie, alors il y a Képénékian, qu'on bon, les gens peut-être appris très d'une manière quand même assez brève hein, à connaître, mais enfin, j'en suis pas sûre. Mais pour les autres, je pense qu'ils ont besoin d'un représentant de commerce pour qu'il y ait quand même une valeur ajoutée à cette liste à la mairie de Lyon. Donc, bah, il paraît que ça réfléchit pour savoir s'il serait quand même pas tête de liste. Ou quand même s'il pouvait pas au moins être là peut-être sur l'affiche, vous voyez, avec son nom, parce que ça pourrait aider certains et certaines à gagner la mairie de Lyon, voilà, et puis mettre un petit peu peut-être de vivacité aussi dans cette campagne, parce que c'est vrai que sur, au niveau des municipales hors métropole, pour l'instant on s'emmerde hein, quand même dans les autres villes, hein, Villeurbanne, bon, pour l'instant on s'éclate pas des masses, et puis quand même Gérard aussi, bon, peut-être qu'il cause pas trop, parce que là mardi il y avait des auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics au bénéfice de Madame Nourry, c'est l'ex-compagne hein, de Gérard Collomb. Donc voilà, ça, c'est aussi une affaire un petit peu avec des casseroles, mais on apprécie que Michel Mercier, qu'on connaît par ici, qui était un ancien ministre, bah lui, c'est la casserole Bayrou qu'il a, puisque là, c'est pareil, hein, il est aussi visé par une petite enquête. Donc c'est marrant quand même, comme tous nos élus, alors, ça ne veut pas dire que ça soit fait, hein, ça soit, qu'il y ait vraiment eu des détournements concernant Madame Nourry, mais il y a quand même beaucoup d'enquêtes hein, qui sont accrochées sur le dos de nos élus. C'est quand même assez symptomatique aussi dans notre classe politique. C'est-à-dire qu'au Liban, il y en a qui descendent dans la rue parce qu'il y a une vraie corruption. Chez nous, c'est quand même pas très beau non plus. Quoi. Il faut quand même se le rappeler. Voilà, c'était juste très très bref. On va passer à M. Barbarin.
Ah ben, ça va être très bref. Je vais juste cracher ma haine contre cet énergumène que je considère comme étant un personnage odieux. C'est mon avis perso. Il a osé encore dire, je cite sa phrase, « Je n'arrive pas bien à voir en quoi je suis coupable ». Voilà, c'est le deuxième procès, toujours en rappel au sujet du père Prénat, hein, qui a violé plusieurs petits garçons, des jeunes scouts. Bon, vous avez sûrement vu ce magnifique film qui a été tourné à Lyon sur cette affaire Prénat, sur la protection de l'Église catholique et notamment de l'archevêché lyonnais de ce prêtre qui était déplacé alors qu'ils savaient tous que c'était un pédophile. Le cardinal Barbarin hérite de tout ça et ne fera pas plus de choses que les autres. Il va continuer vraisemblablement de protéger tout ce bas monde. Il a été condamné dans le premier procès. Là, on est en appel et il continue son discours insupportable. On sait très bien que la religion et la démocratie, c'est compliqué. C'est pas très compatible. Hein, puisque voilà, la démocratie, par définition, peut tout remettre en cause. Et dans une religion, on peut pas tout remettre en cause hein, parce qu'il y a le texte qui est soi-disant donné par un pseudo-créateur. Et ça entraîne tout ça, un comportement qui est pas du tout présentable, pas du tout respectable. Donc voilà, je lui crache ma haine. Il y a des témoignages cet après-midi hein, qui sont parus notamment dans La Croix, où les gens témoignent au procès. Et c'est violent, c'est horrible. Et on, voilà, il s'est jamais fait agresser, le père Prénat non plus. C'est bien parce que ces gens ont été les agressés et pas eu la force physique parce que c'est juste immonde, juste indéfendable. Mais lui, Barbarin, il défend l'indéfendable ou en fait il fait semblant de ne rien avoir vu. C'est horrible. Je reste, je fais deux petites infos du coup, à moins que tu veuilles faire. Parce que du coup, on n'a pas de conducteur.
Si je les ai sous les yeux, alors c'est moi qui décide.
Ah, vas-y, tu fais quoi?
Tu sais quoi, je vais rester dans la justice et on va partir à Baltimore. C'est une ville donc aux États-Unis d'Amérique.
C'est un peu chaud, Baltimore.
Et c'est une histoire pour moi, hein, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Assez typique de ce qu'est la violence policière et le racisme dans la justice. Dans notre pays, mais surtout aux États-Unis d'Amérique.
Et puis alors Baltimore, je crois que c'est un bon spot pour tout ça.
Oui, voilà, tout à fait. La ville a changé, mais c'est vrai que les années 80 et 90 ont été assez dures quand même dans cette ville. Alors en 83, le 18 novembre 1983, il y a DeWitt Ducker qui a 14 ans, qui est abattu d'une balle dans la nuque. Ça fait du bruit à l'époque parce que ça se passe à l'école. Et que, évidemment, c'est un meurtre douloureux et difficile pour tout le monde. À cette époque-là, la police tout de suite va trouver trois témoins du crime qui expliquent avoir vu une personne s'enfuir. Et pourtant, quatre personnes vont venir à un procès, puisque trois noirs, âgés de 16 et 17 ans, vont être arrêtés assez rapidement, sous idée que d'abord ils traînaient dans le coin et qu'ils avaient l'air de ressembler peut-être par les blousons aux suspects qui avaient été décrits par les témoins. Au procès, il y a quatre personnes qui viennent témoigner et qui disent si c'est eux. Cette semaine, après 36 ans de prison, les charges ont été levées, ils ont été innocentés. Puisqu'il y a, vous savez, aux États-Unis, peut-être qu'il y a des associations qui se battent pour faire innocenter des personnes qui sont, pour certaines, quand elles sont défendues par ces associations, reconnues innocentes, alors qu'elles ont été accusées à tort de crimes qu'elles n'ont pas connus. Et souvent, c'est des crimes de sang. Hein, donc, c'est des peines assez lourdes. Et là, au bout de 36 ans, ces personnes sont enfin relâchées. Les charges sont levées. Il s'avère que les quatre personnes qui avaient témoigné au procès ont expliqué qu'en fait, elles avaient reçu des pressions de la part de la police.
On leur souhaite de faire 36 ans de prison aussi, du coup, non ?
Alors, je sais pas comment tu vis ça. Je sais pas. Moi, je serais pas aussi catégorique que toi dans la démarche, mais je pense que ça doit être. Enfin, tu dois quand même avoir le cerveau qui doit quand même taper fort quand tu as accusé des personnes à tort, même sous pression policière, effectivement. Mais c'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'on a trois noirs qui sont dans le coin, qui sont jeunes, qui sont arrêtés parce qu'ils en ont noir, hein, très certainement.
Qu'ont la gueule du coupable idéal dans cette société raciste.
Alors qu'on a des témoins qui ont vu le crime et qui ont vu un seul suspect. Ouais. Et qui n'ont pas reconnu aucun de ces gamins à l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit peut-être, je ne sais pas. Ils ne les ont pas reconnus. Ils ont dit non, on ne les reconnaît pas. Et c'est trois personnes ont quand même fait 36 ans de prison. Vous imaginez 16-17 ans, c'est-à-dire que...
36 ans, c'est à peu près la moitié d'une vie. Hein.
C'est ta vie, quoi. Enfin, puis c'est quand même là où tu te développes aussi quand tu es un peu plus jeune. Hein. Donc c'est assez terrible. Alors bon, là, on va quand même chercher à savoir qui va payer. Voilà, comment tout ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un dédommagement? Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que cette association, en plus, a priori, a retrouvé un coupable. En tout cas, un suspect. Et qui va certainement être peut-être présenté à la justice, hein, qui a priori l'a été, d'ailleurs je dis peut-être, mais l'a été. C'est-à-dire qu'en plus, l'association a effectivement trouvé aussi les moyens de dire non, ce n'est pas eux parce que nous on a fait une enquête, on a poussé cette enquête et voilà la personne qui aujourd'hui pour nous semble coupable. Donc on aimerait bien qu'elle soit traduite en justice et que tout ça soit bien clair pour tout le monde que ces trois garçons à l'époque étaient innocents. Et donc par un racisme et par une violence policière, se sont donc retrouvés à faire 36 ans de tôle.
Ouais, pas mal. Voilà. J'ai une petite rubrique avec deux infos que j'ai appelées triste ou drôle. Je sais pas trop quoi mettre dedans. Comment qualifier les deux infos que je vais vous donner. La première, ça se passe en Hongrie, ce beau pays gouverné par Viktor Orban. La télé publique, donc qui est une sorte d'ORTF hein, qui obéit à son maître nationaliste Orban, a annoncé cette semaine que la télé publique, mais c'est le pays hein, quelque part, allait se retirer du concours de l'Eurovision qui aura lieu l'an prochain à Rotterdam. Alors aucune explication officielle n'a été donnée par la chaîne qui s'appelle MTVA, mais bon, il y a des rumeurs et puis ça allait jusqu'à des preuves qui sortent pour dire qu'en fait ce qui dérange ce magnifique pays qu'est la Hongrie, c'est le Guardian, notamment le journal anglais qui le dit, c'est parce que les dernières Eurovision, il y a eu des choses notamment dites en soutien aux LGBT. Il y a eu, on se rappelle, la victoire d'une personne trans, Conchita Wurst, il y a quelques années. Et voilà, et donc, petite enquête comme ça. Ça, c'était au début les bruits qui couraient, ça, c'était gros comme une maison que c'était ça. Hein. Et puis, enquête, il y a un site index.hu, hein, qui est je sais plus comment ça s'appelle, le dot de la Hongrie, qui est un site d'information qui, lui, a enquêté, a trouvé des sources et des gens qui témoignent sous l'anonymat de cette chaîne et qui dit, bah oui, en fait, c'est ça, c'est que il juge, la télé juge, et donc Orban juge, que cette horreur, parce que moi je trouve ça ridiculement nul, l'Eurovision, c'est trop gay. Trop gay friendly, trop gay, trop trans, trop pas comme il a envie que ça soit. Alors c'est pas surprenant. Le climat homophobe en Hongrie est quand même très très fort. Et dans les pays de l'Est globalement, c'est pas facile hein, quand on est homo. Mais en plus, Viktor Orban, il le met en avant. Il défend les valeurs traditionnelles de la famille. Il a fait retirer une publicité de Coca-Cola qui montrait deux hommes qui s'enlaçaient avec une bouteille de Coca à leurs lèvres. Enfin voilà, il y a un climat homophobe très fort en Hongrie. Ils se retirent donc de l'Eurovision. Ils accompagnent donc la Turquie qui était partie en 2013. Voilà, parce que c'était pareil. C'est trop gay friendly. Voilà, donc c'est, je sais pas si c'est triste ou ridicule ou drôle, parce qu'on s'en fout un peu de l'Eurovision réellement, mais voilà, c'est juste un symptôme de plus du triste état de ce pays qu'est la Hongrie. Autre chose, et on va aller en France, c'est pas toujours mieux en fait. Hein. On se dit ouais, on est moins nationaliste, tout ça. Bon, bah des fois ça marche pas. C'est une info que j'ai chopée sur. J'ai perdu le nom du magazine qui était en difficulté. Têtu, voilà. Donc, il y a eu le 30 mai 2017 une manif de l'extrême droite religieuse chrétienne traditionnaliste ce qu'on appelle la manif pour tous, c'est comme ça qu'il s'appelle, contre la PMA et la GPA aux homosexuels, pour les homosexuels, et une militante de ACT UP avait dit, je cite la phrase, « Manif pour tous, homophobes assassins, complices du sida ». Quand on raisonne sur ce qu'elle a dit, « Manif pour tous, homophobes », bah oui, ils l'ont assumé, parce qu'ils avaient mis à un moment une banderole avec « homophobes » et « assassins, complices du sida », c'est ça que la justice française va pas aimer. Et quand on raisonne rationnellement, est-ce que quand on prône de ne pas utiliser le préservatif, on n'est pas responsable de l'augmentation de la contamination? Si, c'est scientifiquement prouvé. Quand on a une politique, et c'est le cas de cette association d'extrême droite, de faire de la propagande pour que les personnes n'utilisent pas de préservatifs, on augmente donc mécaniquement le nombre de contaminés, donc le nombre de morts, donc finalement, on fait mourir des gens. Quelque part, c'est bien un comportement meurtrier, coupable, assassin. Sauf que la justice l'accepte pas dans les termes. En tout cas, la justice aujourd'hui, puisqu'on a appris que cette militante, ancienne présidente d'ACT UP Sud-Ouest, a été condamnée à 300 euros d'amende avec sursis, 1 euro symbolique à la manif pour tous, et surtout 1000 euros de frais de justice à rembourser à l'extrême droite religieuse chrétienne de chez nous. Donc voilà, c'est juste triste. Cette militante, Louise, moi je trouve qu'elle a eu raison de tenir ses propos, parce que c'est rationnellement juste de dire ces choses-là. La conséquence de la non-utilisation du préservatif, c'est mécaniquement des morts en plus. C'est juste, c'est démontré, c'est scientifique. La justice a été réactionnaire, tristement réactionnaire. Alors, bien évidemment, elle va faire appel. Elle a raison de faire appel. Pourquoi ? Parce que le parquet, la réquisition du parquet avait demandé la relaxe de la prévenue. Quelque part, on rappelle, hein, le parquet, tout ça, c'est l'État. Donc, le juge est allé à l'encontre de la réquisition du parquet. Donc, elle a fait appel. Et effectivement, avec un peu de chance, elle tombe sur un juge moins proche des idées d'extrême droite. Elle peut, et elle devrait, ce qui paraît logique, gagner sur ce truc-là. Voilà. Donc, c'est plutôt l'info triste. Hein. L'info drôle, c'était la Hongrie.
On va donner quelques nouvelles du capitalisme, si tu veux bien. Alors évidemment, ce qui a mis en émoi l'économie cette semaine, c'est les diamants.
Les diamants, tu veux dire, on a trouvé une mine de diamants à la Croix-Rousse ?
Non.
C'est les 15 milliards ? Non, c'est peut-être pas 15 d'ailleurs.
Oh, t'es pas loin.
C'est combien, vas-y ?
14,7 milliards.
Putain, 14,7 milliards. Dépensés par un...
Par LVMH.
Un capitaliste milliardaire, ouais, pour acheter un autre, une boîte.
Tiffany. Donc,
si vous avez 15 milliards, vous auriez pu acheter Tiffany.
On va vous faire des phrases donc, pour vous expliquer tout ça. Donc LVMH rachète donc Tiffany, qui est donc dans le luxe des bijoux, pour 14,7 milliards. Ça fait beaucoup, hein, de dollars.
Ouais, je vous laisse diviser par le SMIC et vous allez voir que c'est énorme.
Mais je laisse tomber, il faut. La calculette, tu marches pas déjà, tu sais, 14 milliards, 700 millions.
Si ça marche,
c'est compliqué, quoi. Ouais. Enfin bon. Alors, c'est une grosse somme. Il faut savoir que ça fait déjà quelques temps qu'il y avait des négociations. Ou plutôt que LVMH est allé voir Tiffany. Qui n'est pas une mauvaise marque, parce qu'il y a par exemple 300 boutiques.
C'est un truc typiquement américain, c'est très implanté là-bas.
C'est très très implanté aux États-Unis d'Amérique, mais c'est vrai qu'il y a un fort réseau quand même de boutiques. Alors on est dans le luxe, hein, donc vous attendez pas à avoir des boutiques justement à côté de Radio Canut. On est quand même dans un secteur assez particulier.
Avec la gentrification, on n'est pas à l'abri de l'arrivée d'une boutique comme ça, pas loin de Radio Canut, tu sais.
Plutôt, je suis parti sur la presqu'île, mais plutôt même pas d'ailleurs du tout à Lyon. Hein, voilà. Ça reste assez particulier quand même. Même aussi comme approche du secteur du bijou. On n'est pas juste dans le haut de gamme, hein, on est quand même dans le luxe. Donc là, l'idée, c'est de racheter une boîte qui va pas trop mal, mais qui va pas très bien non plus. Hein, puisqu'il y avait eu quand même une tentative de relance par un moment son patron, qui est un ancien de LVMH. Vous voyez, non, mais des fois, ça aide.
La boucle est bouclée, en fait. Ouais, voilà. Ils étaient entre amis, ils discutaient entre eux.
Donc, alors. Au début, enfin, faut savoir quand même que c'est des endroits où il y a des conseils d'administration, tout ça. Alors, pour vous dire, je vais essayer de vous faire des vraies phrases avec des paragraphes, parce que là, je trouve que je m'embrouille un peu. Donc, vous avez tout suivi, LVMH rachète donc Tiffany, qui fait du bijou de luxe, pour 14,7 milliards. Ça, c'est déjà la première chose. La vente ne sera vraiment effective que après l'Assemblée Générale, qui va avoir lieu au premier trimestre pour donc LVMH. Donc, ça veut dire que milieu 2020... Tout ça va aboutir puisque il y a déjà eu des négociations qui évidemment ça devrait être validé. Le conseil d'administration de Tiffany avait d'abord refusé les premières offres qui avaient été proposées et gérées par un proche de Monsieur Arnault, c'est Monsieur Antonio Belloni, qui a l'habitude aussi de ce genre de transaction, qui est donc allé voir le directeur général de Tiffany, Alessandro Bogliolo, un ancien de LVMH. Et au début, donc, ça a été refusé par le conseil d'administration. Et puis là, ben voilà, c'est passé. Alors, c'est quand même un prix de $135 par action.
Oui, ça me parle pas, moi.
C'est pas dégueu.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions quand même. Faut faire 14 milliards, quoi.
Ouais, alors c'est une valorisation, tu sais, c'est aussi les trucs. Mais bon, il y a quand même du numéraire hein, là qui est sorti. Hein. Et puis surtout, c'est que LVMH va reprendre une partie des dettes. Hein, alors, pour 317 millions d'euros quand même. On est dans des chiffres quand même assez importants. Hein. C'est le luxe hein, quand même. Tout de suite, voilà, c'est une multinationale quand même, LVMH, Tiffany aussi. Donc, on est quand même dans des sommes assez importantes. Il faut savoir qu'au début, la proposition, elle était à $120. Donc, il y a eu une petit réajustement du côté d'LVMH qui avait l'air de vouloir quand même tenir à acheter Tiffany. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est le seul secteur du luxe dans lequel LVMH n'est pas number one.
Oui, le but du capitalisme, c'est d'arriver à être seul au milieu de tout le monde et d'écraser toute la concurrence autour.
D'être number one. Donc là, avec Tiffany, ça va bien se passer. L'idée aussi, c'est de concurrencer un gros du secteur qui s'appelle Richemont. C'est des Suisses. Richemont, c'est Cartier, Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels, ça vous parle hein, en termes de marque, j'imagine quand même. Vous avez déjà peut-être tourné un magazine avec des trucs dedans et de la pub pour des gros bijoux. Hein. Donc c'est parce que du côté de LVMH, on a par exemple Bulgarie, donc aussi de la marque hein, de luxe. Donc là, il fallait quand même rivaliser avec un autre concurrent qui a des marques extrêmement connues. Parce que l'idée, évidemment, est de se tourner vers une clientèle que tout le monde s'arrache, qui est à peu près dans tous les secteurs, et en particulier dans le luxe, c'est la clientèle asiatique. Qui est en plus très très marque. C'est-à-dire que c'est pas juste le produit qui est intéressante, mais c'est aussi la marque. Hein. Il faut mieux acheter certaines marques. Et Cartier est évidemment une certaine image et une certaine histoire, et donc ça marche très très bien. Donc là, il fallait trouver aussi un moyen de pouvoir rivaliser, et donc de pouvoir posséder plusieurs marques qui vont attirer ses consommateurs et ses consommatrices sur le luxe de LVMH, et donc de les faire partir du luxe de chez Richemont. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie assez particulière hein, chez LVMH, de toujours manger pour avoir des marques qui soient très présente sur les secteurs qui sont visés et pouvoir ensuite, comme ça, grappiller encore et encore plus des parts de marché et sur des secteurs qui sont précis parce que nous, en Europe, finalement, on est un vieux territoire, on n'achète plus rien, il paraît. Par contre, du côté des Chinois et des Japonais, ça marche très très fort. Donc, c'est par là-bas qu'il faut aller et particulièrement chez les Chinois. Donc, voilà, ça c'était donc l'affaire un petit peu hein, de la semaine. L'autre truc que j'avais envie de vous parler, si je retrouve mes petits papiers parce que j'ai l'air de les avoir un petit peu cachés, c'est Huawei. Vous savez, on en a parlé quand il y avait ces affaires de rejet des États-Unis d'Amérique, puisque est-ce qu'il y a derrière espionnage, pas espionnage?
Ouais, ben bah, de toute façon, c'est, oui, hein, c'est un matériel stratégique.
On avait parlé avec la 5G, mmh, toutes ces histoires. On a appris par un média en ligne qui s'appelle la lettre A que cette multinationale chinoise a déposé des plaintes pour contre X avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier. Donc en fait, qui est visé par ces plaintes? Une experte responsable du pôle Asie de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qu'on appelle en acronyme FRS, qui s'appelle Valérie Niquet. La production de l'émission dans laquelle est allée causer Maximale Production, donc c'était sur France 5, et elle est allée causer dans l'émission C'est dans l'air. Donc Caroline Roux, journaliste, est aussi visée donc par cette plainte. Et pourquoi? Ben parce que en fait la multinationale n'a pas du tout apprécié des propos qu'elle trouve évidemment diffamants, dans lequel Valérie Niquet dit que la multinationale est sous le contrôle de l'État et du Parti communiste chinois. Et on vous l'avait raconté hein, il y a déjà quelques temps, la multinationale se bat pour alors j'allais dire verdifier, c'est pas de l'écologie, mais en tout cas faire un beau washing de la marque et prétendre que donc la marque appartient à ses salariés, que c'est absolument magnifique, que c'est transparent et qu'il n'y a pas du tout derrière l'État chinois qui est là pour expliquer ce qu'il faut faire et puis surtout nous espionner à travers les produits et l'industrie de cette multinationale.
Alors qu'on sait très bien que l'ensemble du capitalisme chinois est sous le contrôle direct, plus ou moins direct en fait, du Parti communiste, c'est-à-dire des dirigeants chinois.
Donc,
mais bon, ils ont, voilà, c'est de bonne guerre.
Oui, je suis pas. Alors, écoute, moi j'ai un peu cherché pour savoir ce que les gens pensaient, est-ce que ça va aboutir, pas aboutir. Bon, ça semble un petit peu.
Non, mais quoi qu'il arrive.
Parce qu'elle a, en plus, elle a jamais dit il y a des espions dedans. Ouais. Elle l'a pas dit comme ça. Elle a dit c'était sous contrôle de l'État chinois. Depuis la création de la multinationale, il y a l'État chinois derrière.
Oui. Et puis, non mais donc, quelque part, c'est un matériel stratégique. Potentiellement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, puisque c'est pas fabriqué ici. Il y a effectivement une incohérence à utiliser ça dans les réseaux de communication. Ça paraît totalement logique. Il faut maîtriser l'intérieur, le soft et le hardware, ce qui est gravé dans les puces, pour être sûr de savoir ce qu'il y a dedans. Sinon, on n'a aucun moyen de contrôle. On rappelle, hein, parce que là, on parle des Chinois, mais les Américains ont foutu des merdes dans des puces, voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été faites dans d'autres pays. Il y a du matériel qui est vendu en permanence, qui peut être désactivé quand c'est un peu stratégique. Donc là, c'est les communications, c'est très stratégique, et ça paraît logique que cette chercheuse elle dise ça comme ça. C'est, voilà, moi, dans son rôle, j'imagine que j'aurais fait la même chose. Même sans preuve, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est que dans un tweet de Huawei, la petite nuance qui m'a fait sourire, c'est que je vous ai dit, donc, c'est la chercheuse, la journaliste et la société de production qui sont visées par cette plainte. Et dans son tweet, on apprend que les plaintes visent les auteurs des propos, je cite, hein, des propos diffusés et non les médias. Huawei respecte leur indépendance, la liberté de la presse.
Oh, c'est-à-dire beau
qu'ils n'attaquent pas la chaîne.
Ouais, ils sont intelligents quand même.
Voilà. Allez.
La solution hein, sur le matériel comme ça, c'est que ce soit des matériels libres. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que les softs et le hardware soient donnés à tout le monde, qu'on puisse tous regarder ce qu'il y a dedans. Mais comme il y a des enjeux capitalistes, on l'a pas. Du coup, à partir du moment où c'est pas libre, c'est pas modifiable, pas contrôlable par tout le monde. Et donc, bah voilà, il y en a qui peuvent contrôler. Et c'est forcément la boîte qui fabrique.
Tu voulais nous parler des déclins des insectes, de la machine à voter, donc on a encore du
futur. Non, bah la machine à voter, c'est une seconde. Donc les insectes, oui, on parle souvent hein, du déclin des insectes. L'année dernière, il y a eu cette fameuse étude en Allemagne là, qui disait que 75% des insectes avaient disparu d'Allemagne. Dans une autre étude, c'est 40% des insectes sur l'ensemble de la planète. Enfin voilà, il y a un gros problème. Alors, on a toujours accusé la perte d'habitat. Ça veut dire que quoi? Bah, ça veut dire qu'on a construit des trucs là où il y avait des arbres et des plantes et des rivières ou des cours d'eau ou des machins ou enfin, des trucs où l'endroit où la vie se développait tranquillement avant que l'espèce humaine arrive et bétonne tout. Voilà, le changement climatique se rajoute là-dessus, la pollution chimique généralisée, donc ça on en a conscience aussi, et puis le fait qu'on se balade trop sur la planète et qu'on emmène des petits insectes avec nous et qu'on a des espèces donc dites invasives qui viennent prendre la place des espèces locales. C'est pas du racisme, hein, c'est pas les messages étrangers qui viennent, mais c'est quand même ça, la nature, c'est une espèce invasive, elle peut avoir des avantages sur les autres et elle détruit ce qui existe sur place. Ça, on en avait conscience, mais là, on a des nouvelles infos et des infos qui sont très intéressantes. C'est un groupe de chercheurs qui a publié un article dans une revue qui s'appelle Biological Conservation et qui met en lumière, c'est le cas de le dire, que le facteur qui serait le plus important et le plus nocif sur la disparition des insectes, ça serait la pollution lumineuse. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, la pollution lumineuse, mais on s'était jamais allé jusque là. Alors ils ont, c'est ce qu'on appelle une méta-étude, c'est-à-dire qu'ils ont étudié 200 travaux scientifiques sur le sujet, ils en ont tiré une méta-analyse et une belle conclusion qui dit qu'effectivement, d'après eux, le facteur primordial dans la disparition des insectes, c'est la lumière. De ce qu'on appelle la pollution visuelle. C'est-à-dire la lumière artificielle, notamment la nuit, puisque le jour s'achète moins, le soleil étant très fort. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que bon, d'abord la conclusion est nouvelle, et puis c'est surtout que bah, maintenant on peut facilement lutter contre, puisque il suffit d'éteindre. Et contrairement à la pollution des rivières ou de la terre par les agriculteurs productivistes, où s'ils arrêtent, eh ben il y a quand même 10 ans d'inertie derrière avec des produits chimiques qu'il va falloir au moins 10 ans pour éliminer. Là, la lumière, quand on arrête, stop ! Instantanément, la pollution lumineuse disparaît. Donc c'est très facile d'améliorer les choses. Alors en ville, les solutions sont très connues. Baisser la lumière parce qu'on allume beaucoup trop. Arrêter d'éclairer la nuit, le ciel, mais éclairer que simplement le sol. Faire des lumières plus ciblées. Faire des choses qui s'allument que quand il y a du mouvement, c'est-à-dire quand des gens approchent. Enfin, voilà, il y a moult solutions. Et c'est donc plutôt quelque chose qui donne de l'espoir sur les insectes, parce que si on met ça en œuvre, on devrait arriver à faire remonter le taux d'insectes en ville. Donc ce serait plutôt une bonne solution pour la biodiversité. Je vous rappelle, c'est la chaîne alimentaire, les insectes sont mangés par les oiseaux qui sont mangés par etc. etc. Quand on casse un bout de la chaîne alimentaire, tout s'écroule plus ou moins et tout est en train de s'écrouler. Donc voilà, une étude intéressante.
Tu veux continuer avec la machine à voter ?
Ouais, c'est une demi-seconde. Allez. Moi j'avais oublié qu'il y avait encore des machines à voter. En fait, il y a un député de La République En Marche, qui s'appelle Laurent Saint-Martin, qui a profité d'une session de questions au gouvernement pour redemander où on en était de ces machines à voter. Il y a officiellement un moratoire depuis 2017. On se rappelle que quand Gérard Collomb est arrivé au ministère de l'Intérieur, le gouvernement avait annoncé officiellement qu'il y avait un abandon définitif des machines à voter. On sait pourquoi, hein, c'est pas fiable, on peut pas contrôler la triche, enfin c'est un système qui nous dépasse, on peut pas recompter, enfin il y a tout ce qui fait un peu qui justifie à peu près la démocratie représentative, ça part en live, ça n'existe plus avec ces machines à voter. Et donc en fait, on se rend compte, puisqu'il a eu une réponse, député, en plus il est député de la majorité, il y a un moratoire, mais c'est le ministre de l'Intérieur, enfin, c'est le secrétaire d'État ministre de l'Intérieur, il s'appelle Laurent Numès qui dit ça. Ouais, mais bon, on n'est pas totalement contre. En tout cas, là où il y en a toujours, on les laisse. Enfin voilà, on se rend compte qu'en fait, tout va bien, on n'en parle pas. Il y a encore la présence de certaines machines à voter dans certains territoires. Et que, on laisse faire parce que on a espoir peut-être que ça se développe. En tout cas, voilà, on pensait que le débat était tranché, qu'il y avait un abandon définitif de cette escroquerie que sont les machines à voter. Et ben, vraisemblablement, non. Alors, pour l'instant, c'est pas remis sur le devant de la scène, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un retour tragique de ces horreurs.
Alors, je vais y revenir sur un sujet qui a parcouru les salons avec des éditeurs. Et donc, soit évidemment des gens qui viennent faire des dédicaces. Ça a beaucoup causé sur le fait qu'on ne payait pas les gens qui viennent effectivement sur ces salons et qui ont écrit des livres. Et qu'à un moment, il y a eu un petit peu une révolte de la part d'auteurs en disant « Attends, merde, je viens de passer une journée. Alors ouais, c'est pour vendre mon livre, mais en même temps, c'est pas moi qui ai la plus grosse rétribution. » Et puis il y a des secteurs sur lesquels ça avait beaucoup râlé, c'est chez les dessinateurs dans la BD, parce que il y a un travail de création qui est pas juste une signature sur une page d'un livre, et qui amène voilà aussi des réflexions sur on dessine, on crée.
Et puis on rappelle qu'il y en a qui font du business, hein, parce qu'après ils revendent leur BD plus cher. Enfin, il faut que le dessinateur ou la dessinatrice soit connue. Ce
qui un petit peu côté quand même.
Mais voilà, donc en même temps, c'est souvent considéré comme un travail de promotion.
Mais le travail de promotion travail. Pour plein de gens, c'est du travail et donc il devrait être
c'est du travail,
rétribué.
Oui.
C'est le festival SoBD qui va se dérouler en décembre, du 6 au 8 décembre à Paris, qui a donc annoncé que les auteurs présents sur le salon allaient être payés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque oui. Ça peut un petit peu changer.
On rappelle, hein, ils ne sont pas payés, mais ils sont défrayés.
Hein, ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'est de
les payer. Oui, non, mais dans les autres salons de BD, ils ne payent pas le transport, ils ne payent pas la bouffe, ils ne payent pas le logement, ils sont défrayés. Par contre, effectivement, la journée, ils travaillent gratos. Voilà.
Bon, là, l'idée, c'est effectivement de les payer 2 à 3 heures sur 2 à 3 heures dédicaces. Alors attention, les montants.
Ça va être faible, tu veux dire. Vous allez gagner 20 euros, les gars.
60 euros.
Ah bah, je n'étais pas loin, du coup. C'est...
Alors, en plus, le festival va payer la moitié, et l'autre, c'est l'éditeur.
Ouais. Donc, c'est bien que l'éditeur mette la main à la poche.
Donc, il y a une douzaine d'éditeurs. Ça ne va pas leur coûter cher. Hein. On va quand même remettre un peu les choses d'aplomb. C'est pour l'instant pas une dépense encore très importante. Il y a une cinquantaine d'auteurs sur ce festival SoBD, une douzaine d'éditeurs. Donc, bon, oui. Et puis, finalement, pour les organisateurs du festival, ça fait partie aussi d'un budget de faire venir aussi des auteurs qui viennent faire de la dédicace et qui donc animent aussi ce festival. Et puis, parce que sans eux, y a quelque chose qui se perd, surtout quand on est, je pense, avec la création de BD, qui est aussi quand même très visuel, très artistique, et puis les gens aiment bien quand même avoir ce rapport, de voir la création se faire devant soi, c'est quand même souvent assez exceptionnel, enfin moi je trouve que c'est toujours très intéressant.
Oui, même si le travail d'un dessinateur de BD ne ressemble pas du tout au travail qu'il fait pendant la dédicace.
Mais, tu sais que c'est aussi quelqu'un qui est un dessinateur, et donc c'est aussi bien de pouvoir, on est toujours content quand on va avoir des expos avec des planches qui ne sont pas juste que les planches du travail final de BD, mais aussi de la conception et du travail des dessinateurs. Donc là, ça relance un petit peu le débat, cette affaire, parce que le festival, avec la voix de son fondateur Renaud Chavanne, a pas mal médiatisé cette démarche. Bon, alors du coup, ils sont un peu rentrés dedans avec les 60 euros, il faut le dire quand même, parce que ils ont dit que quand même c'est plus que le SMIC, ça va être vachement bien. Alors bon, il y en a quand même qui lui sont un peu rentrés dedans, hein, quand même, au festival, à Renaud Chavanne en particulier, en disant, bon, peut-être pas pousser non plus mes mains dans les orties, c'est quand même pas non plus exceptionnel. C'est bien, parce que ça fait avancer la cause des auteurs, et qu'il y a un moment, peut-être que les choses vont changer, qu'on va arrêter aussi de les faire se déplacer, et puis les exploiter un petit peu, sous prétexte qu'ils font de la promotion et de la publicité, et que donc, du coup, ils font vendre leurs livres, et que s'ils veulent pas sortir, les livres se vendront pas. Donc, c'est un tout petit peu facile, cette affaire. Voilà, ça reste malgré tout que, les choses progressent, mais bon, il va falloir faire un petit peu plus d'efforts, à mon avis, pour aussi valoriser des auteurs qui... pour un certain nombre, ne gagnent quand même pas non plus extrêmement bien leur vie.
Non, j'ai plus le chiffre en tête, hein, mais la majorité, c'est la majorité, hein, des auteurs, des dessinateurs de BD se vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ils ont des aides, le RSA, des choses comme ça, pour vivre. En fait, la BD, ça paye pas. Enfin, ça paye pour, j'allais dire Uderzo, mais Uderzo, il fait plus de BD. Mais voilà, pour ceux qui font des titres qui vendent beaucoup. Et pour les autres, c'est juste l'usine, mais une usine où on met pas les mains dans l'huile, quoi, mais on met les mains dans le pinceau, dans la peinture, ou dans le crayon, ou dans la tablette graphique.
Parce que... d'une manière, chez les romanciers, tu sais, à part les têtes de gondole.
C'est un peu pareil.
C'est quand tu vends 2000 exemplaires de ton ouvrage en France, c'est que. C'est pas mal, hein.
La moyenne des BD, je crois, c'est aux alentours de 3000.
Ouais, mais voilà. Donc ça veut dire que toi, même dans les romans, hein, vous en trouvez plein les rayons des librairies. Si vous croyez que tout ça se vend à chaque fois à 50 000 exemplaires, non, ça c'est les machins politiques que vous finissez par jamais lire. Parce que, voilà. Mais les chiffres sont assez impressionnants et assez exceptionnels, il faut bien le dire, et on se demande bien pourquoi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire.
T'as fini pour aujourd'hui ?
Ouais.
Je vais lire mon témoignage, du coup.
Allez, vas-y.
Alors, je vais lire le témoignage de Céline Malky, que j'ai trouvé intéressant. Donc, je vais le lire. C'est pas moi qui parle. T'aurais pu le lire, d'ailleurs, parce que ça aurait été peut-être plus judicieux que ce soit toi qui le lise. Je lis le témoignage de Céline Malky. On va comprendre de quoi elle parle. D'une belle discrimination que personne combat. J'ai pleuré de rage pendant des années, de joie. Aujourd'hui, je suis parvenu. J'y suis parvenu. On ne sait pas encore de quoi elle parle. J'ai souvent eu à m'opposer, à défendre mon cas, mes positions. Jamais encore je n'avais eu à me battre pour accéder à l'un de mes droits. Depuis 2001, la ligature des trompes est une contraception définitive ouverte à toutes les personnes majeures qui en font un choix éclairé. Il s'agit d'un droit à disposer de soi-même, essentiel. L'accès à ce droit, comme à celui de procréer, de manière assistée ou non, d'avorter, est un droit à l'émancipation, un droit à disposer de soi-même. Disposer de soi-même, quoi de plus fondamental? Les conditions sont simples sur le papier. Avoir 18 ans, être en pleine capacité de conscience, respecter un délai de réflexion de 4 mois entre le moment où l'on voit le chirurgien et le moment où on se fait opérer. J'ai commencé à me renseigner sur cette méthode de contraception à environ 20 ans. J'en ai tout d'abord parlé à mon médecin traitant, quelqu'un de bienveillant et de compétent, qui a répondu à toutes mes questions sans aucun jugement. La prochaine étape s'est avérée beaucoup plus compliquée. Quand j'ai eu 22 ans et que j'ai été certaine de cette décision, j'ai commencé mes démarches. En 4 ans, j'ai vu 9 gynécologues et j'ai fait face à 8 refus. J'ai été confronté à une forme de violence, une résistance farouche, celle de celles et ceux qui savent mieux que vous, qui veulent vous voir revenir dans le droit chemin. Et je vais citer les phrases qu'elle a entendues par ces gynécologues. Tu sais que c'est définitif, tu vas te priver de pouvoir choisir plus tard. Un enfant aussi, c'est définitif, dit-elle. Oui. Vous êtes trop jeune, encore irresponsable, personne n'acceptera. Attendez d'avoir des enfants, passez 40 ans. Ce n'est pas normal d'avoir ce genre de pensée à votre âge. Allez voir un psychologue, faites-vous soigner. Ça va loin. Pauvre fille, inconsciente, idiote. Pourquoi vouloir en arriver là? Excusez-moi, mais vu votre obésité, il s'agirait déjà de songer à trouver quelqu'un qui accepterait de coucher avec vous. Véridique. Hein, c'est triste. Hein, là. Votre compagnon est d'accord avec ça? Sûr? Incroyable. Et si vous vous remariez dans 15 ans et que le nouveau monsieur en veut, lui, des enfants, vous lui direz quoi? Vous imaginez ça? Bon, grosso modo, c'est mes mots à moi, je continue avec ces mots à elle. Sexisme, grossophobie, paternalisme infantilisant, soumission au désir des hommes, le tout venant de médecins généralistes, de gynécologues, tout genre confondu. Hommes et femmes, donc. J'ai souvent baissé les bras et ma délivrance aujourd'hui, je le dois au groupe Facebook Stérilisation Volontaire. En effet, en plus d'être un soutien, groupe de discussion, il y existe un répertoire de chirurgiens acceptant de pratiquer cette intervention. Le jour où j'ai découvert ce groupe, j'ai pleuré littéralement de joie, de soulagement, c'était incroyable. Le jour même, j'ai pris rendez-vous auprès du chirurgien le plus proche de chez moi, 100 km. 3 semaines après, je le rencontrais. J'y suis allé pleine de colère et de fatigue, mais pour rien. Juste deux questions. Pourquoi êtes-vous là? Avez-vous conscience que cette procédure est définitive? Tout ça avec bienveillance, même pas besoin de me battre, c'était incroyable. Et pourtant, il n'a fait que respecter la loi et donc le droit à disposer de mon corps comme je l'entendais. S'en sont suivis les 4 mois de réflexion obligatoire et enfin cette libération. À mon réveil, mon compagnon est là, je me sens bien, je me sens légère, j'y suis enfin. J'ai pleuré de rage pendant des années, de joie aujourd'hui, j'y suis parvenu. Toute cette énergie dépensée pour une opération de quelques minutes, une sortie de l'hôpital dans la journée, seulement 3 petites cicatrices qui disparaîtront sûrement avec le temps. Et puis quand j'ai annoncé à mes médecins que j'avais finalement trouvé quelqu'un qui acceptait de me stériliser, je vous donne les réponses. Pardon? Quel est le nom du chirurgien? Je le dénoncerai devant l'ordre des médecins pour mutilation corporelle. C'est inacceptable. On rappelle que c'est autorisé par la loi. Jamais je n'aurais accepté ça. Quel est le nom du chirurgien? Bref, le combat continue. Le temps d'un post sur mes réseaux sociaux pour annoncer mon accomplissement. Beaucoup de soutien, quelques insultes en retour, des messages ambigus de certains proches, peu importe. Plus rien ne m'atteindra. J'ai réussi. Le combat continue encore et toujours. Si je ne prends aujourd'hui plus la peine d'expliquer ce choix, celui de ne pas avoir d'enfant, j'ai longtemps dû argumenter, défendre ma position devant mon courage, plus ou moins proche, devant mon entourage, plus ou moins proche, puis devant des spécialistes. Il est apparemment acceptable d'avoir 22, 24 ou 26 ans et de savoir qu'on veut des enfants, mais pas d'annoncer qu'on n'en veut pas, parce qu'on s'oppose au modèle sociétal. Cette norme qui définit l'acceptabilité des propositions énoncées, qui empêche les femmes de disposer de leur corps, qui empêche les femmes de se faire stériliser ou avorter, et qui les empêche d'avoir des enfants parce que leur couple ne correspond pas au modèle validé. Et malgré tout, tous ces combats, ces débats, ces justifications, aujourd'hui je suis heureuse, plus heureuse qu'hier et pour longtemps. Voilà, je trouve qu'on ne parle pas souvent de ce combat, puisque effectivement, la question de la maternité est une question, et de la volonté de ne pas être mère est une question qui est assez peu défendue. Hein, malheureusement, cette idée réactionnaire de la femme égale une mère est très présente de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et pas tant toute l'extrême gauche, heureusement. Voilà, le combat de cette femme, je l'ai trouvé touchant. Et je voulais terminer le Canu Info là-dessus, avant de laisser la place à l'émission suivante. Voilà, une discrimination dont on ne parle pas, l'impossibilité d'accès à cette forme de contraception définitive.
Nous te remercions, nous, les femmes libérées et libres de ton soutien. Merci à toi. On se retrouvera en tout cas la semaine prochaine. On va vous laisser. C'est Foutrac ce soir ou c'est la petite cuillère?
Non, c'est Foutrac qui sont là. Ils ont préparé. Ah, ils sont chauds.
Je suis arrivé en retard si tu veux. J'ai un peu.
Voilà, d'ailleurs, on a une minute de retard. Ils arrivent tout de suite.
Ils arrivent et on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.
Bye, bye.